France Musique. Musicopolis. Mai 1877, Paris. Les abonnés du Ménestrel, journal de musique, peuvent lire en date du 20 mai 1877 un entrefilet signé des lettres AM, les initiales du pianiste et compositeur Antoine Marmontel. Jeudi 10 mai, écrit-il, les beaux salons de Monsieur et Madame Viardot s'ouvraient pour la dernière fois de cette saison à leurs invités d'élite. Un des plus grands attraits de la soirée était la première audition d'une œuvre de musique de chambre de Madame Hérite Viardot, un quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle. Comme le trio dont le Ménestrel a déjà eu à faire l'éloge, et à un degré peut-être supérieur, le quatuor en ré mineur de Madame Hérite est une composition remarquable, autant sous le rapport de la force de conception que sous celui de la facture, de l'harmonie et de l'intérêt des développements. Exécuté avec un ensemble parfait, par l'auteur, chez qui la valeur de la virtuose égale celle du compositeur, par Monsieur Paul Viardot, fils, par Messieurs Godard et Griset, ce quatuor a produit le plus grand effet. Grâce à ce court article du Ménestrel, nous prenons connaissance du jugement très élogieux d'un musicien de l'époque sur le quatuor de Louise Hérite Viardot. Louise Hérite Viardot, dont peu d'entre nous ont entendu parler aujourd'hui. Alors bien sûr, dans ce nom de Hérite Viardot, il y a Viardot, le nom de ses parents. Et là, nous sommes en terrain nettement plus connu. Avec sa mère, la grande cantatrice et compositrice Pauline Viardot, fille de Manuel Garcia, sœur de la Malibran, amie de tous les artistes du XIXe siècle et notamment des compositeurs Berlioz, Meyerbeer, Gounod, Liszt, et son père, Louis Viardot, journaliste, critique, écrivain. Alors, qui est donc cette Louise Hérite Viardot, à part la fille de son père et de sa mère? Eh bien, elle est née en 1841, à la grande déception de ses parents, car ils avaient espéré un fils, raconte-t-elle dans ses mémoires. « Que de reproches n'ai-je pas eu à subir de ne pas en être un ?» poursuit-elle. « Et n'est-ce pas là un peu la cause de la facilité avec laquelle on me confiait à ma grand-mère Garcia lorsque mes parents partaient en tournée dans les principales villes d'Europe ?» Qu'elle soit chez ses parents ou confiée à sa grand-mère, la petite Louise Viardot est exposée très tôt à son art futur. À 5 ans, elle est déjà « folle de musique », ce sont ses mots. Et elle accompagne sa mère qui chante à l'opéra. Louise chante et joue du piano. Après plusieurs années de pension, revenue à la maison, elle continue son instruction en dévorant tous les ouvrages français et allemands qui lui tombent sous la main. Honteuse de perdre son temps à dormir, elle fait en sorte de se réveiller la nuit pour, dit-elle, se remettre à l'étude de la technique de quatuor ou à celle de partition. Lorsqu'elle a 13 ans, on donne pour professeur de piano à la jeune Louise Viardot le concertiste et compositeur Louis Lacombe, qui a appris à Vienne l'art de jouer Beethoven. Quand l'adolescente a l'outrecuidance de déclarer qu'elle aime mieux sa propre interprétation des sonates du maître, sa mère a la sagesse de la laisser libre d'apprendre le piano à sa guise. « À partir de ce moment, je fis de réels progrès », affirme-t-elle. Pour la théorie, on donne pour professeur à Louise Viardot un certain Auguste Barbereau, prix de Rome, chef d'orchestre et auteur de plusieurs traités de composition et d'harmonie. Un excellent pédagogue, si l'on en juge par ce que raconte Louise. Elle lui montre ce qu'elle a composé, mélodie et morceaux de piano, et il s'écrie « C'est bien !» et il n'y a pas une seule faute. Mais maintenant, ma petite, il va falloir comprendre pourquoi il n'y a pas de faute et me l'expliquer techniquement. Elle s'exécute avec l'aide de son professeur et lorsqu'il juge complète son instruction musicale, il lui dit « Maintenant, tu peux continuer à composer, mais reste toi-même et tâche d'oublier tout ce que je t'ai enseigné. » Pour clore le chapitre de son éducation musicale, Louise Hérite Viardot raconte aussi que le traité d'instrumentation de Berlioz a été sa seule aide en orchestration. Elle conclut « Les mauvaises leçons de piano et les quelques bonnes leçons d'harmonie que j'ai reçues ont constitué toute mon instruction musicale, ce qui ne m'a pas empêché de remporter de grands succès comme compositeur. Je constate simplement ce fait sans y mettre aucune sorte de vanité et en m'étonnant moi-même de n'avoir jamais rien pu apprendre de leçons régulières. Cette méthode de travail a pour avantage de ne pas porter atteinte à la personnalité. Mais par le fait qu'on est autodidacte, on ne peut, sa vie durant, se recommander du nom d'aucun professeur notoire. Et lorsqu'on apparaît en public, on n'est soutenu par aucune coterie. Les résidences de la famille Viardot, un très bel hôtel particulier rue de Douai à Paris l'hiver et un château de style Renaissance à Courtavenel en Brie l'été, sont des lieux hospitaliers pour tous les artistes de passage, musiciens, poètes, gens de lettres, peintres. On fait de la musique, on joue des pièces de théâtre, on se fait des farces. La jeune Louise est souvent mise à contribution. Elle doit régulièrement s'asseoir au piano pour déchiffrer de la musique de chambre avec les plus grands interprètes ou compositeurs du temps. Avec sa mère, elle exécute à quatre mains les œuvres toutes nouvelles que Berlioz leur apporte à essayer, n'étant pas lui-même pianiste. « Pauvre petit rien que j'étais, écrit-elle, combien de fautes de basse n'ai-je pas relevées et eu l'aplomb de signaler au compositeur ?» Elle bavarde avec Meyerbeer, Rossini et Rubinstein. Elle reçoit les conseils de Gounod, les encouragements de Liszt. Bref, elle jouit d'un environnement artistique et musical de premier ordre. Et il n'est pas étonnant que ses dons de créatrice soient stimulés. Thank you. À 21 ans, selon le désir de ses parents, Louise Viardot se marie avec un diplomate de 20 ans son aîné, Ernest Herit. Elle va vivre avec lui à Berne d'abord, puis au Cap. Ils ont ensemble un petit garçon, Louis. Le mariage n'est pas heureux et elle revient en France avec son fils. Elle suivra ses parents à Baden-Baden, où ils résident un temps. Puis elle va avoir divers postes d'enseignement. À Saint-Pétersbourg, où elle obtient aussi beaucoup de succès comme chanteuse à l'opéra, puis à Stockholm. Elle a une santé très fragile, elle tombe souvent malade. Elle perd son souffle, nécessaire pour chanter. Elle doit renoncer à cette carrière. Elle écrit « Longtemps, je restais découragée et déprimée. Mais un jour, je fus prise du violent désir de composer. Dès lors, j'étais sauvée, car je pouvais gagner ma vie par l'enseignement et satisfaire par la composition les plus nobles aspirations de mon âme. » Malgré le soutien artistique de sa famille et de son milieu, Louise Herit Viardot éprouve douloureusement sa situation de femme dans la société de son temps. Elle se présente par exemple au concours du Grand Prix de la ville de Paris. Elle compose une cantate pour soli, chœur et orchestre, Les Fêtes de Bacchus. Le jury hésite entre sa pièce et l'œuvre de Benjamin Godard, Le Tasse. Lorsque l'un des membres déclare « Il est impossible que nous décernions le prix à cet ouvrage. J'en reconnais l'écriture qui est celle d'une femme. Et ce serait une honte pour nous de donner la palme à une femme. » C'est donc Godard qui a obtenu le prix et la notoriété. Louise Herit Viardot dirigera à Stockholm sa cantate refusée au prix de la ville de Paris, avec grand succès. Mais sur le moment, elle est très affectée par cet échec. Chez ses parents, elle a l'occasion de faire jouer une autre cantate, intitulée « Caïn », devant un parterre d'artistes, Gounod, Fauré, Massenet, Lalo notamment, qui lui recommandent de la faire exécuter par l'orchestre Lamoureux. Pour cela, raconte-t-elle, il fallait quelques billets de 1000 francs afin d'acquitter les frais de copie, de répétition, etc. Or, je n'avais pas d'argent disponible à ce moment. Et personne ne songea à m'aider pécuniairement, persuadée qu'on était que ma famille avancerait les fonds nécessaires. Elle n'en eut pas l'idée et je fus trop fière pour le lui demander. Louise poursuit. Ces deux faits montrent bien à quel point une femme est handicapée par des préjugés et un parti pris qui l'empêchent d'arriver et d'être appréciée à sa valeur. Voyons, vous savez bien qu'une femme est incapable de composer, entendons-nous dire à chaque instant. Même si ses œuvres sont jouées de son vivant, en Allemagne, à Londres, en Suède, Louise Hérite Viardot n'a sans doute pas suffisamment veillé à la diffusion de ses œuvres, à leur exécution, à leur publication et d'une manière générale à leur survie. Nombreuses sont celles qui ont disparu. Mais de zélés musicologues essayent de retrouver et de faire jouer tout ce répertoire oublié. Dans les années 80, Joël-Marie Fauquet exhume ce quatuor en ré mineur et le fait jouer sur France Culture. L'œuvre a été enregistrée ensuite en 2005 avec les deux autres quatuors de la compositrice à la radio de Brême par un groupe de musiciens réunis dans l'ensemble Viardot. Je laisse le mot de la fin à Saint-Saëns. Quelle bévue il a commise, le bon Dieu, lorsqu'il a fait de Louise une femme. Elle possède les dons naturels, l'intelligence éclairée, la largeur de vue, l'érudition, la fermeté de caractère d'un homme tout à fait supérieur. Et comme artiste, et comme compositeur, quelle inspiration, quel talent, quelle puissance, quelle technique, quel profond savoir, quelle originalité, parfois subversive, se dégage de chacune de ses œuvres. Réellement, le bon Dieu s'est étrangement trompé, car si Louise était un homme, son génie produirait dans la musique une véritable révolution. Finale du quatuor en ré mineur de Louise Hérite Viardot par le quatuor Viardot. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Claire Lagarde pour la réalisation, Benjamin Vignal pour le mixage, Charlotte Landru-Chandès et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.